Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, 19h, donc passé d'une minute. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h en direct pour Soft Power. Un magazine Soft Power qui sera consacré ce soir à quatre sujets. Et d'abord à l'avenir de la musique classique. L'avenir de la musique classique avec Alex Ross, le critique célèbre, critique musical du New Yorker et l'auteur notamment de livres importants, notamment The Rest is Noise, un essai sur la musique classique qui fut un best-seller international. Avec lui, nous parlerons du métier de critique de musique classique et des transformations que le secteur du classique subit désormais du fait d'Internet. Au cours de cette émission, nous parlerons également de l'orthographe et des dictionnaires qui se saisissent de nombreux anglicismes, notamment des mots du web, mais abandonnent en même temps des mots, de très beaux mots de notre langue qui tombent ainsi dans l'oubli. Avec nous pour en parler, Guillaume Thérien, champion de France orthographe et fondateur du site orthodidacte.com. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Frédéric Martel.
Vous vous intéressez aux mots qui apparaissent dans les dictionnaires, mais aussi à ceux moins connus et dont personne ne semble se soucier, ceux donc qui disparaissent. Vous les avez comptés, suivis, vous vous intéressez à leur vie. Vous voulez ce soir leur rendre hommage.
Mais pourquoi pas, on verra s'ils disparaissent réellement de la langue française.
Et si vous pouvez les sauver. Ouais. On parle de tout ça ce soir en seconde partie d'émission. Bonsoir Emmanuel Paquette.
Bonsoir Frédéric Martel.
Avec vous, on s'intéressera ce soir dans l'alphabet numérique à d'autres mots. Les mots cette fois de passe sur Internet. Vous savez, ces mots innombrables que vous devez retenir pour accéder à des dizaines de sites et dont on vous recommande désormais d'y inclure des chiffres, des points d'exclamation et des points de virgule afin que ce soit encore plus difficile à retenir, Emmanuel.
Oui, enfin plus difficile à retenir pour vous, mais également pour des pirates qui voudraient s'insinuer dans des interstices pour essayer d'accéder à vos comptes mail, à vos comptes bancaires, etc. Donc, oubliez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, le nom de votre fils ou le nom de votre chat.
Les hackers, si vous mettez comme mot de passe password ou mot de passe, ça ne marche pas.
Exactement, ou football, puisque c'est un des mots-clés les plus souvent utilisés, surtout en période d'Euro 2016, donc il faut oublier ce genre de choses.
Info pratique donc avec vous, Emmanuel Paquette, ce soir, dans l'alphabet numérique sur les mots de passe à utiliser et ceux aussi qu'il ne faut pas utiliser. Enfin, dans l'actualité de la semaine et de cette période où on parle beaucoup d'international, pour commencer cette émission, on s'intéressera ce soir à un sujet un peu décalé, mais vous allez voir, passionnant, et qui est aussi un sujet de soft power, puisqu'il s'agit de la Russie de Vladimir Poutine, avec son opposant principal, le joueur d'échecs Garry Kasparov, que nous avons interviewé tout récemment à New York. On écoutera également ce soir les Red Hot Chili Peppers, Samuel Barber, et Beethoven, interprété par Emmanuel Krivine, qui vient d'être nommé à la tête de l'Orchestre National de France. Tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h. À suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer, ainsi que sur Instagram, Facebook, en podcast, et sur France Culture en direct. L'actualité comme chaque semaine pour commencer cette émission, et ce soir nous allons nous intéresser à la Russie de Vladimir Poutine, notamment parce que un blogueur anticorruption célèbre, Alexei Navalny, a été victime d'une violente agression tout récemment, agression dont on ne peut pas penser qu'elle n'est pas de près ou de loin liée à un certain système qui est la Russie actuelle. Pour en parler ce soir, j'ai interviewé récemment à New York Garry Kasparov, le joueur d'échecs peut-être le plus connu au monde, qui se trouve être devenu, Emmanuel Paquette, le plus virulent opposant à Vladimir Poutine.
Oui, le plus virulent opposant et en même temps un opposant qui est exilé aujourd'hui puisqu'il est aux États-Unis de crainte du régime répressif de Vladimir Poutine. Et puis c'est quelqu'un qui aussi continue d'écrire des livres. Son ouvrage est sorti en pleine primaire républicaine aux États-Unis. Il s'est même attaqué récemment à Bernie Sanders durant les primaires démocrates.
Alors son ouvrage vient d'être traduit en français sous le titre Winter is Coming. C'est un titre pas trop français, mais en l'occurrence c'est un sous-titre en français, Stopper Vladimir Poutine et les ennemis du monde libre, donc livre de Garry Kasparov, Winter is Coming, publié aux éditions Michel Lafon.
Voilà, et puis il a monté un parti, donc ce parti Solidarnost, qui a tenté plusieurs fois donc d'accéder au pouvoir en Russie. Malheureusement, à chaque fois, ils n'ont pas réussi. Et donc aujourd'hui, c'est toujours Vladimir Poutine qui est en place. Alors c'est vrai que l'analyse de Kasparov vis-à-vis de Poutine est quand même très tranchante. Il le considère comme un dictateur, il le compare même à Adolf Hitler. Donc il va très très loin dans les comparaisons avec les dictateurs du temps passé. Et aujourd'hui, on le critique aussi un petit peu sur sa position, notamment proche des Américains et notamment très proche des néoconservateurs américains, puisqu'il soutient aujourd'hui Rubio aux États-Unis. Il considère que l'Amérique devrait continuer à intervenir à l'extérieur, notamment en Russie ou contre la politique russe. Donc, et aujourd'hui, les différents prétendants à la présidentielle américaine, selon lui, sont tous des présidentielles qui veulent se rétracter sur le seul pays américain, que ça soit Trump du côté des républicains ou Hillary Clinton du côté démocrate.
Garry Kasparov, donc ancien champion du monde des échecs, il vit désormais en exil à New York. De là, il organise la résistance contre Poutine et prédit une nouvelle guerre froide avec Moscou. Il faut dire que ces dernières années, ces derniers mois aussi, un certain nombre de faits restent très troublants. D'abord, le camarade de Garry Kasparov, Boris Nemtsov, le célèbre blogueur et dissident politique, adversaire notoire de Poutine, a été assassiné de 4 balles dans le dos. C'était en février l'an dernier, juste devant le Kremlin. La journaliste Anna Politkovskaya, dont la couverture du conflit tchétchène et les critiques violentes envers les autorités du Caucase lui ont également coûté la vie. Les pussyriotes, ces féministes punk déjantées qui ont ridiculisé Poutine, ont passé quant à elles de longs mois en prison. Je le disais, Alexei Navalny, le blogueur anticorruption, a été victime d'une violente agression il y a quelques semaines, le 17 mai. Enfin, Pavel Durov, le fondateur de Kontakte, ça s'écrit VKONTAKTE, Vontkakte.
Le Telegram.
Le Facebook russe, un Telegram, a été débarqué de sa propre boîte et vit depuis en exil en Europe, en Asie, en Amérique, telle une sorte de digital nomade. Alors, face à tout ça, Garry Kasparov utilise non seulement ses livres, mais aussi ses réseaux sociaux. Il a 250 000 amis sur Facebook, 160 000 fans sur Twitter. Avec ses partis, l'autre Russie, Front Civique Unifié à l'époque, l'ancien opposant célèbre Anatoly Karpov, l'autre joueur d'échecs plus pro-soviétique alors que Kasparov était plus occidental, eh bien Kasparov continue cette bataille et cette fois depuis les États-Unis. Il veut faire échec et mat à Poutine. L'ancien héros du 2K et du 3K tente désormais d'appliquer les règles des échecs à la politique internationale. Je vous propose de le retrouver. Nous l'avons interviewé dans son appartement de Broadway, dont l'adresse est confidentielle, à New York. L'homme qui est vaniteux, qui a, comme tous les grands joueurs d'échecs, un certain ego, a choisi, et c'est relativement rare, sorte de Solzhenitsyn, d'abandonner ce côté extrêmement centré sur lui-même pour se concentrer aux autres, se placer au service des autres. Mutation assez rare pour être soulignée. Je vous propose d'écouter cette interview avec Garry Kasparov, réalisée il y a quelques semaines à New York.
Ça y est, j'ai pris l'habitude d'habiter ici. Cela fait plus de 3 ans que je suis parti de la Russie. Ce n'est pas un exil choisi, mais je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour ma famille, car il aurait été trop dangereux de rester en Russie. J'avais été convoqué par la commission d'enquête pour justifier de mon activité dans des groupes d'opposition et je savais parfaitement ce qui arrivait aux gens convoqués par cette commission. Nous sommes donc partis de la Russie en 2013. Maintenant, ma vie est ici. Cela faisait 10 ans que nous vivions à New York par intermittence et là, nous nous sommes installés avec 2 de nos enfants et ma fille aînée que j'ai eue d'un premier mariage et elle vit et travaille aussi à New York.
Comment est-ce que vous définiriez le régime de Poutine aujourd'hui?
La définition la plus simple serait un régime dictatorial aux mains d'un seul homme avec des relents d'idées fascistes. Ces régimes sont stables et très dangereux pour le reste du monde, car ils vivent d'une propagande très agressive. Comme tout repose sur un seul homme, il doit apparaître fort, invincible, robuste. Il ne peut pas montrer une faiblesse. Alors, quand l'économie va mal, il doit présenter de nouveaux arguments au public russe pour démontrer qu'il est le seul qui peut sauver le pays des forces du mal. La Russie est présentée comme une forteresse assiégée, entouré de nombreux ennemis. Je dirais que cela s'est fait de manière graduelle, avec des petites touches. On a pris les bases démocratiques de l'ère Yeltsin et puis mélangé aux différentes affaires. On est arrivé à ce résultat, il n'y a pas de retour en arrière. Ce régime ne changera pas, même à travers des élections. On peut espérer qu'il y aura un remplaçant moins démoniaque après le départ de Poutine. Et le plus tôt il partira, plus tôt la Russie pourra réintégrer le monde des nations civilisées occidentales. Mais je crois que malgré tout, nous sombrerons dans la violence.
Comment est-ce que vous définiriez la propagande aujourd'hui russe ? De manière intérieure et de manière extérieure, et en particulier vis-à-vis des médias et de l'Internet.
Ma mère, qui fêtera ses 80 ans l'année prochaine, elle est née à l'époque de Staline, comme vous pouvez l'imaginer. Elle a vu la propagande de Staline, Khrushchev, Brezhnev, Andropov. Elle réside toujours à Moscou. Et elle me dit souvent, bon, évidemment, la propagande soviétique avait ses défaillances. Bon, il était facile de voir le jeu qu'il y avait derrière, mais ils essayaient de vendre une vision du monde, de l'avenir, un avenir plus prometteur, un sacrifice de tous pour un plus bel avenir, pour tous partager ensemble le fruit de ce sacrifice, comme nous étions tous frères. C'était un rêve communiste impossible, mais c'était un rêve. La propagande de Poutine n'a rien à voir. C'est une culture de la mort. On vous dit qu'il n'y a pas d'avenir. Il faut se défendre contre les attaques. Nous sommes sous la pression du reste du monde. Nous devons être unis derrière le leader suprême, derrière notre président chéri. En fait, il n'offre aucune échappatoire. C'est un vrai poison, mais très efficace, parce que la propagande actuelle sait parfaitement utiliser la technologie moderne. Elle offre tellement d'opportunités. Elle touche les gens de manière diverse. La situation est mauvaise parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la télé de zombies vous empoisonne, empoisonne l'esprit des gens. Il y a aussi en Russie d'autres canaux de gens qui se rendent compte que effectivement, il y a des opportunités de présenter d'autres points de vue, d'autres alternatives, de nombreux points de vue. Et certains de ces points de vue ne sont pas très positifs. Ils vont à l'encontre des droits fondamentaux. Mais c'est toujours très compliqué de mettre en parallèle la propagande et les autres points de vue. Parce que les gens disent, bah, regardez ce qui se passe ailleurs. Dans le monde soi-disant libre, c'est vrai que l'on peut comparer les différents points de vue, les critiques. Et c'est vrai que les gens de ces mondes libres ont un esprit très ouvert. Et c'est vrai que dans ce monde libre, les gens sont critiques contre le gouvernement. Alors, on dit, bon, bah voilà, en Russie, le gouvernement russe a fait quelque chose de mal, mais les Français, les Allemands, les Britanniques ont fait des choses très mauvaises. Alors, cela marche très bien parce qu'il y a une force puissante des lobbies, des différentes forces d'intérêt qui s'accommodent, en fait, avec le pouvoir de Poutine.
On a parlé d'un Internet rouge. Comment est-ce que vous définiriez cet Internet russe aujourd'hui ?
C'est se tromper que de penser qu'Internet vous permet de dépasser cette propagande. Car si vous savez manipuler Internet, vous pouvez en tirer un avantage. Et souvent, les dictateurs sont très sages à l'heure de savoir utiliser Internet à leur propre profit, à bloquer les pages, à créer de fausses pages, à contrôler le trafic sur la toile. Et les gens qui cherchent de l'information peuvent trouver l'information qui vient confirmer ce qu'on leur a présenté depuis longtemps. Donc, il est très facile de manipuler le savoir et de créer des fausses images.
Comment est-ce que vous-même vous organisez la résistance ? Comment est-ce que vous essayez de jouer un rôle aujourd'hui ?
I'm writing a lot more in English than in Russian because I'm probably the only one who just has massive audience, the English-speaking audience worldwide, the only one from Russian dissident.
Alors j'écris beaucoup plus en anglais qu'en russe, car je suis probablement le dissident russe avec le plus de lecteurs anglophones, même s'il il y a de nombreux sympathisants russes. Et puis à travers mon site kasparov.ru et aussi à travers des sites internet tous interdits en Russie. Et puis il y a aussi à travers VPN. Nous avons aussi de nombreux porte-paroles russes hors de la Russie, en Ukraine, dans la Baltique et dans d'autres lieux. J'essaie aussi de rassembler des groupes de dissidents, des gens qui ont été forcés à l'exil. Nous avons organisé une conférence à Vilnius il y a quelques semaines qui s'appelle le Forum pour une Russie libre. Et nous essayons de nous réunir à nouveau à la fin du mois de septembre cette année. C'est vraiment un événement qui essaie de réunir une douzaine d'activistes de l'étranger et de parler de l'avenir de notre pays. C'est vrai que nous ne pouvons rien faire à l'heure actuelle, mais je crois qu'il est important de réfléchir à ce que sera l'avenir de ce pays, car cela permet de confondre l'un des arguments clés du régime qui est s'il n'y a pas Poutine, qui d'autre? Il serait le seul capable de sauver le pays. Donc je crois qu'il est important de démontrer aux Russes qu'il y a un autre avenir sans Poutine.
Qu'est-ce que nous pouvons faire? Que peuvent faire les Européens?
Je crois qu'il faut respecter les principes qui vous fondent. Il ne faut pas trop lâcher. Je lui dirais d'abord de ne pas faire certaines choses. Et puis surtout, ne pas tomber dans le compromis avec Poutine en sacrifiant certains de ses principes qui ont été fondamentaux au moment de la création de l'Union européenne et du monde occidental. Par exemple, l'annexion de territoires limitrophes est inacceptable. L'Europe ne peut d'aucune façon accepter ce type d'agression et les laisser impunis. Et on ne peut normaliser les relations sans résoudre ces sujets. Et je crois que l'Europe se rend compte petit à petit que le régime de Poutine n'est pas seulement un problème pour les Russes, les Ukrainiens ou les Géorgiens, mais pour l'ensemble du monde. Elle instille un poison. Elle donne une force à tous ces méchants, à ces Bachar el-Assad, à ces dirigeants coréens, aux mollahs iraniens, aux terroristes du monde entier, parce qu'ils voient à quel point Poutine est capable de défier l'Europe, les États-Unis, les règlements internationaux, les accords. Et cela crée une atmosphère totalement délétère. Et l'Union européenne doit comprendre que tant que Poutine sera là et tant qu'il continuera à poser ses problèmes, rien ne l'arrêtera. Il a même réussi à utiliser les réfugiés syriens comme une arme politique et une arme politique puissante avec ses alliés européens comme le Front National en France, Pegida en Allemagne et d'autres groupes nationalistes. L'objectif de Poutine est très clair. Il veut utiliser toutes ses armes pour affaiblir, détruire l'Union européenne et l'OTAN. Et il n'arrêtera jamais.
À l'instant, Garry Kasparov, interviewé chez lui à New York. Il était traduit par Paloma Goulemont. Suicide a month before I met you. Deep regrets I never could forget you. Somehow you made your way to my decade. Ayo, 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 my girl. In the sun I see you with your guard down. Number one, you're moving to a hard town. Do not dismiss the promise that you made me. Ayo, 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 my time. Overkill, you took another red pill. On the sheet is everything that you spilled. We are the ones you want to know right now. Ayo, 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 black light. Come again to murder your report card. Just a friend to kiss you in the courtyard. You are the one I want to be stuck with. Ayo, 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 big fat favor song. Way too young. À l'instant, le morceau Goodbye Angels, extrait du 11e album des Red Hot Chili Peppers, The Getaway, sorti ce vendredi. Les Chili Peppers tentent dans cet album un retour aux sources, peut-être par amertume, contre les tendances, en tout cas c'est ce qu'ils ont laissé entendre, les tendances actuelles du rock. Vous pouvez retrouver ce morceau sur notre playlist de Soft Power sur Deezer et vous abonner à notre podcast gratuitement sur le site franceculture.com ou sur iTunes.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons avec vous, Emmanuel Paquette, vous êtes journaliste à l'Express, les mots de passe. Les mots de passe, c'est ce qu'on utilise pour accéder à des sites, qu'on peut aussi pour accéder à ses comptes bancaires, souvent aussi sur iPhone ou sur smartphone, à de très nombreuses applications. Alors ce soir, on va parler des mots de passe qu'il ne faut pas utiliser, de ceux qu'il faut utiliser et puis de toutes les évolutions en cours concernant les mots de passe. On commence peut-être par ces mots qu'il ne faut pas utiliser, football, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou alors tout simplement mots de passe ou password.
Oui, donc c'est une société qui s'appelle SplatchDate qui a compilé en fait les 2 millions de mots de passe qui ont été fuités sur Internet, qui ont été leakés comme on dit sur Internet hein, par des pirates informatiques. Et du coup, ils se sont rendu compte que parmi ces 2 millions de mots de passe qui ont pu être retrouvés, arrive en pole position effectivement le célèbre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou effectivement,
très original,
pas très original,
oui.
Mot de passe. Et puis on trouve
avec
aussi
des variantes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.
Voilà, on peut aller jusqu'à 8, et puis après, simplement les premières lettres du clavier, c'est-à-dire QWERTY pour un clavier anglais, puis AZERTY pour un clavier français. Et donc, ces mots de passe sont fortement déconseillés, puisqu'ils sont très simples à retrouver.
Il faut moins d'une seconde à un hacker pour arriver à les craquer.
Voilà, avec des systèmes, des logiciels qui permettent de tester plusieurs mots comme ça, des mots communs.
Parce que ces softwares permettent qu'utilisent les hackers, plus de 8 millions de passwords peuvent être testés en près d'une seconde. On voit bien que quand on a des passwords très simples,
voilà,
très difficile.
Oui, c'est facile à craquer, comme on dit. Donc le sport aussi est souvent utilisé. Le football, par exemple, baseball aux États-Unis sont des mots qui sont extrêmement utilisés. Et puis on trouve aussi en 25e position le célèbre Star Wars aussi en mot de passe, donc aussi à éviter.
À éviter, ouais.
Ou simplement login, puisque c'est aussi l'autre chose qu'on utilise quand on se connecte, un login et un mot de passe. Et donc éviter de mettre login. Alors il y a vraisemblablement un mot en français pour login, en tout cas identifiant, disons. Donc pour éviter de mettre un mot comme identifiant en mot de passe, et ça aussi c'est plutôt à proscrire.
Alors que faire plutôt que d'utiliser ces mots-là? Plein de solutions sont proposées. On peut ajouter un chiffre. Au fond, au lieu d'une seconde, ça prendra deux secondes à hacker. C'est pas une grande solution. On peut rajouter des points d'exclamation, des points d'interrogation, des chiffres dollars ou des points virgules. Déjà, c'est un petit peu mieux. Surtout, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des mots. Au lieu d'en mettre un, c'est-à-dire au lieu d'un password, il vaut mieux utiliser une phrase word, c'est-à-dire au fond, plusieurs mots. Au-delà de 14 caractères, c'est bien mieux, puisque là, ça crée plus de 811 trillions d'essais. Et pour le pirate, c'est un peu plus difficile à craquer.
Oui, exactement. Donc, à côté de la phrase, effectivement, qui est plus compliquée à craquer, il y a également mixer en fait, des chiffres avec des lettres, puisque ça, c'est un petit peu plus complexe. Éviter aussi les arrobas, puisque c'est souvent utilisé aujourd'hui dans les mots de passe. Donc il y a plusieurs moyens comme ça, effectivement, d'améliorer son mot de passe. Comme vous le disiez, de 12 à 14 caractères, c'est quand même plus simple. Et puis, certains sites proposent ce qu'on appelle une double identification, c'est-à-dire à côté du mot de passe, on peut également donner son numéro de mobile. Les messageries internet comme Yahoo, Gmail aujourd'hui le font.
Twitter, Facebook
le font également, qui permet, et quand il y a une suspicion sur
votre
compte.
Ou alors quand on est sur un ordinateur qu'on n'utilise pas régulièrement.
Exactement. À ce moment-là, effectivement, on peut avoir une double identification avec le numéro de téléphone qui peut vous être demandé pour accéder à un compte.
Alors, autre solution, on utilise une citation. En plus, ça a l'avantage d'être facile à mémoriser et on change juste une lettre ou un mot qu'on transforme. Là, c'est beaucoup plus difficile pour les hackers de trouver. Autre solution encore, on ajoute des mots, hein, par exemple France Culture, et dans France, on va transformer le A en arrobase et le culture avec un point d'exclamation, par exemple. Là, il faut au moins 2 heures pour craquer ça pour un hacker, donc c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y a tout un tas de solutions, notamment avec des multiplications, tout simplement, de mots français et anglais, mixer les langues, mixer aussi les genres.
Mais évitez aussi de prendre des choses qui est dans des noms ou des personnages dans votre entourage. sociales. Il se trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez connu chez les hackers qui s'appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est simplement aller sur votre
page Facebook, par exemple,
voir qui sont vos amis, le nom de votre enfant, le nom de votre chien, et utiliser, voir si le nom de votre enfant, votre fils, votre fille, ou le nom de votre chien n'est pas utilisé comme mot de passe sur différents
sites. Donc rien de personnel.
Rien de personnel.
Alors comment on fait quand on a, ce qui est le cas de la plupart des citoyens désormais, de nombreux mots de passe à retenir, comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'il faut une centaine de mots de passe pour tous les sites qu'on utilise? On ne peut pas se souvenir, se mémoriser, mémoriser une centaine de mots de passe, et ce d'autant plus qu'on nous interdit de les écrire, de les stocker, encore moins de les mettre dans son téléphone portable ou dans son ordinateur.
Exactement, et d'éviter aussi d'utiliser les mêmes mots de passe pour différents services, puisque ça aussi, ça simplifie la mémoire du mot de passe en question, mais ça facilite aussi le piratage des hackers. Donc aujourd'hui, il y a des applications qui peuvent être intégrées dans des navigateurs internet, par exemple, qui permettent en fait de mettre sur un même portail tous vos mots de passe, de les sécuriser et de pas avoir à les retaper à chaque fois, à chaque connexion. Donc ça permet d'une part de sécuriser en passant par un tiers, et en même temps de ne plus avoir la tête farcie de tous ces mots de passe différents que vous pouvez avoir pour votre compte bancaire, votre compte mail, etc.
Alors une autre solution, c'est d'utiliser un mot de passe identique pour de nombreux sites, mais lui ajouter à chaque fois le nom du site. Par exemple, si votre mot de passe c'est France Culture avec un point d'exclamation et le A en arrobase, qui est déjà un mot un tout petit peu sécurisé mais pas trop, vous l'appelez France Culture Amazon si vous êtes sur Amazon, France Culture Facebook si vous êtes sur Facebook. Donc là, ça devient assez compliqué, paraît-il, à hacker, même s'il est recommandé de mettre un point virgule, un point d'exclamation et quelque autre chose de ce genre.
Oui, pour
à
compliquer
la fin.
Un petit peu, ouais, effectivement.
Pour terminer, Emmanuel Paquette, trois évolutions en cours concernant ces mots de passe. Vous avez évoqué les applications qui permettent de retenir à votre place les mots de passe, mais aussi le système d'empreinte désormais sur smartphone.
Oui, en soi, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se démocratise. Hein, c'est ce qu'on appelle les systèmes biométriques. Donc aujourd'hui, le Touch ID, par exemple, sur les iPhones, permet de la reconnaissance digitale du doigt ou du pouce.
Et grâce à une empreinte, donc qui, a priori, on peut pas, qui est unique.
A priori, l'empreinte est unique. Alors c'est vrai que généralement, aujourd'hui, quand vous rentrez sur le territoire américain, on utilise à chaque fois un double système biométrique, c'est-à-dire généralement la rétine et
l'iris
de l'œil, c'est ça, et également le pouce ou les empreintes digitales. Là, aujourd'hui, on n'en est qu'à un seul système pour le grand public.
C'est 99% de sécurité, paraît-il, avec des doubles.
Ouais,
c'est pour
exactement.
Ça que l'iris permet de monter à 99,9%, ce qui est beaucoup plus
c'est
sécure.
Ça. Alors, il se trouve aussi que les opposants à ce genre de technique se disent, mais ça va engendrer de la violence, c'est-à-dire que demain, si on veut voler votre téléphone et l'activer, ben, on va probablement vous couper le pouce pour essayer d'activer votre téléphone. Donc, certains ne sont pas à fond pour ce genre de système. Ou en tout cas préfère les mixer, c'est-à-dire un système de biométrie avec un système de mots de passe relativement classique.
Et puis pour terminer, on parle aussi de la fin, tout simplement, Emmanuel Paquette, des mots de passe.
Oui, alors ça c'est une promesse de Google qui a développé un système encore en test aujourd'hui qui s'appelle Trust API. Alors c'est un système qui en fait reconnaît votre façon d'utiliser un téléphone. Il se trouve que chaque personne utilise différemment son téléphone, se rend sur différents types d'applications, les active à un rythme différent chaque jour. Et donc à ce moment-là, un logiciel plutôt d'intelligence artificielle, détermine en fait un espèce de profil de l'utilisateur. Et si quelqu'un d'autre l'utilise, il va l'utiliser totalement différemment le téléphone, et du coup ne sera pas le profil reconnu habituellement par le logiciel, et peut le bloquer automatiquement à ce moment-là. Alors il se trouve que ce système-là aujourd'hui est utilisé beaucoup dans les grandes entreprises, ce qu'on appelle de la reconnaissance de comportement de réseau. On voit comment un réseau habituellement fonctionne, on a tout un historique, et quand on voit une anomalie par rapport à son fonctionnement habituel, ça allume un petit peu des petits warnings un peu partout. Donc, et à ce moment-là, le système informatique, les gens de la sécurité se penchent sur le problème pour essayer de voir si derrière cette anomalie, il n'y a pas une intrusion informatique. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui dans les grandes entreprises commence à venir dans le domaine du grand public.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, je renvoie aussi sur un site qui s'appelle howsecureismypassword.net. Si vous utilisez ce site, vous verrez si votre password est protégé. Mais en même temps, le simple fait de le mettre sur ce site le rend peut-être pas très protégé. howsecureismypassword.net. Et puis dans un sujet proche, je recommande l'utilisation de Bloctel. Le site, c'est Bloctel, B-L-O-C-T-E-L, bloctel.gouv.fr. C'est une liste officielle lancée par le gouvernement français qui est un site de liste rouge. Pour le coup, c'est un sujet parallèle, mais contre le démarchage publicitaire, et qui permet, si vous vous abonnez à ce service Bloctel qui est gratuit, en entrant vos numéros de téléphone, ça vous évite de recevoir des démarchages publicitaires qui peuvent être des sources assez fréquemment, notamment pour les personnes âgées qui suivent pas toujours les dernières technologies, une source où vous allez donner des choses suite à certains démarchages publicitaires, des codes, etc. Et donc, si vous êtes inscrit sur blocktel.gouv.fr, eh bien, vous ne recevrez plus ni sur votre portable, ni sur votre numéro fixe de démarchage publicitaire. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, tout ça autour des questions de mots de passe, aux mots-clés soft power. Vous pouvez également vous abonner au podcast, notre podcast soft power, sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, vous les retrouvez sur notre page alphabetnumérique.com. France Culture, vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h en direct. Je reçois maintenant Guillaume Thérien, il est fondateur du site orthodidacte.com et champion de France d'orthographe. Bonjour monsieur.
Bonsoir Frédéric Martel.
C'est très français orthodidacte.com ?
Eh bien ça reprend des racines grecques.
Ortho,
voilà,
et didacte.
Ortho, droit et didacte, l'enseignement.
Alors avec vous, nous allons parler de trois sujets principalement, éventuellement d'un quatrième rapidement si on a le temps. Je rappelle d'ailleurs que vous avez publié un livre qui s'appelle « Le français vu du ciel ». Et on me dit à l'oreillette que votre rêve dans la vie, c'est d'écrire un dictionnaire. On en parlera peut-être dans un instant. Les trois sujets, c'est les mots disparus, on y reviendra, les mots nouveaux ajoutés. Mais pour commencer, votre site, donc orthodidacte.com, ça permet d'accéder à quoi ce site ?
Alors orthodidacte.com a pour vocation trois choses. Premièrement, mesurer le niveau des compétences en langue française des collaborateurs, des étudiants, etc. Deuxièmement, repérer ce qu'on peut appeler des zones de fragilité dans la langue française. Et puis troisièmement, de générer un parcours d'apprentissage personnalisé, donc qui va cibler ces zones de fragilité.
Donc là, notamment, c'est pour l'employabilité, c'est-à-dire comment trouver peut-être plus facilement un travail quand on écrit mal le français.
Tout à fait, c'est vraiment un sujet de société. On parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, d'employabilité. Aujourd'hui, c'est vrai que ne pas savoir écrire, ça peut être une difficulté pour entrer sur le marché de l'emploi pour les étudiants, ça peut être une difficulté pour changer d'emploi si on est déjà sur le marché du travail. On travaille par exemple avec le ministère, un des ministères qui aujourd'hui veut former ses collaborateurs qui sont destinés à changer de métier. C'était des gens qui au préalable saisissaient des cartes grises dans le système.
Et aujourd'hui, on ne dit pas le nom du ministère.
Non, je ne le dis
ils
pas.
Ils font aussi des papiers, ils arrêtent les gens dans les rues, c'est
voilà.
Ça, oui.
Et il y a tout un ensemble de ces fonctionnaires qui seront mutés et qui... pour changer de métier, vont être formés à nouveau à la langue française, en tout cas vont s'améliorer pour trouver un autre poste plus facilement.
Alors Guillaume Thérien, vous êtes fondateur du site orthodidacte.com et l'une de vos passions, chacun sa passion, vous avez notamment choisi de regarder de près à la fois les mots ajoutés dans les dictionnaires et puis les mots qui disparaissent. Alors commençons par les mots ajoutés, ça tombe bien puisque tout récemment vient de paraître une nouvelle édition 2017, on est longtemps en avance mais ils le sortent 6 mois avant, même un peu plus, du Petit Robert et aussi du Petit Larousse. Les deux dictionnaires sont sortis, on a regardé... vous avez regardé très minutieusement les mots nouveaux qui sont apparus. Alors, juste pour vous donner une petite idée de ce qui... Évidemment, les mots du numérique, les mots du web sont très nombreux. Le mot « disruption » fait son apparition dans le Robert. Le mot « hackathon » également, le mot « fab lab », le mot « résilience », le mot « tweeter », « tweetosphère », « youtuber », « geeker », « ubérisé ». Du côté du Larousse, on a « open source », on a « QR code » dans le Petit Larousse. On a « selfie », à la fois dans le Larousse... et le Petit Robert, tout le monde s'y met. On a le mot troll dans le Robert, on a émoticône, c'est très intéressant, avec un accent circonflexe dans le Larousse. Par contre, c'est emoji dans le Robert. Donc, ils ne se sont pas mis d'accord sur quel est le mot qui est entré entre émoticône et emoji. Donc, on voit que les mots du numérique sont très nombreux à entrer dans les dictionnaires.
Ouais, bah c'est le siècle qui veut ça. Il y a 50 ans, il y avait autant de mots nouveaux, mais ils étaient sur d'autres domaines. Il y a eu peut-être l'automobile.
Les chemins de fer.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est évidemment l'informatique qui prime. Vous parliez d'ubérisé. C'est tout à fait symptomatique de la société d'aujourd'hui, ubérisé,
c'est l'ubérisation de la langue
dans
française.
Soft Power, c'est exactement le sujet en plus. Voilà.
Qu'est-ce que vous auriez pris à la place de Soft Power si vous aviez eu à choisir?
Là, je vous avoue que ça vous m'a choqué.
Quand j'ai reçu votre
invitation, je dis comment hostile.
Mais justement, c'est pour
ça. L'émission qui s'appelle Soft Power.
Qu'est-ce que vous prendriez? Comment pourrait l'appeler cette émission?
J'apprécie l'oxymore, Soft Power, puissance douce, pourquoi pas.
Puissance douce. Ouais. Vous croyez qu'on plus, fait une émission comme ça?
Puissance douce. La puissance douce. En plus, ça fait un jeu de mots avec la puissance 12, parce que voilà, en mathématiques, pourquoi pas? Bon, soft power, c'est un peu
Guillaume Terrien, Guillaume Terrien, fondateur du site orthodidacte.com est l'invité de Puissance Douce ce soir. Dans les mots qui apparaissent, alors il y a des mots radio aussi, le matinalier apparaît sur le Robert, et puis de très nombreux mots, dit-on, notamment liés à la gastronomie. Hein. Dans la gastronomie, c'est aussi un secteur qui se développe beaucoup.
Oui, tout à fait. La gastronomie, on va aller piocher, mondialisation oblige, hein. Aujourd'hui on va manger mexicain, on va manger chinois, coréen, japonais, donc on introduit aussi tous ces produits-là, et généralement on va conserver les mots d'origine, donc les champignons, les j'ai pas forcément de mots en tête, mais voilà, la pizza ça fait longtemps, les spaghettis aussi. Cela, mais voilà, ça c'est très commun dans ces 5-10 dernières années, il y a beaucoup de mots de la gastronomie. Ouais.
Alors votre passion, je l'ai dit tout à l'heure, Guillaume Terrien, c'est de vous intéresser aussi aux mots, et ça, peu de gens le font, aux mots qui disparaissent. Alors vous avez remonté le temps, vous êtes allé dans les dictionnaires pour voir les mots disparus, ce cimetière finalement, des mots disparus, quand même en 1998, le Larousse a tué, écoutez bien, a tué 4300 mots dans son dictionnaire. Et au total, on a entre 1997 et 2012, plus de 5345 mots qui disparaissent de nos dictionnaires. Alors par exemple, garde-crotte, bon, vous allez me dire, c'était peut-être nécessaire, qui est devenu garde-boue, kilolitre, qui est devenu mètre cube, entre-ligne, qui est devenu interligne, crassé, qui devient sans crassé, dégénération, qui devient dégénérescence. Bon, jusque-là, tout va bien. Par contre, Jean-Pierre Mocky a disparu, ainsi que Georges Balandier. Là, c'est des noms propres qui disparaissent. Minitélisé disparaît du Larousse, publiciel également du Larousse, électro-rock, comme s'il n'y avait plus d'électro-rock, ça disparaît également, Craboussin, Brady Breda, Angelé, etc. Est-ce qu'il faudrait conserver tous ces mots qui disparaissent, Guillaume Terrien?
On ne le peut pas dans les dictionnaires papier. Tant qu'on reste sur un dictionnaire papier, le volume est le même depuis pratiquement le début des dictionnaires. Donc, grosso modo, pour faire vite, à chaque fois qu'on en ajoute, on en enlève autant.
Voilà, sauf dans le Robert, où paraît-il, il y a un peu plus d'espace. Alors, parce que il y a plus de le dictionnaire a plus d'espace entre.
Ces dernières années, il y en a eu beaucoup moins d'enlevés dans le petit Robert, effectivement. Mais si on remonte un petit peu plus loin, dans le début des années 90, il y a eu ce qu'on appelle une refonte. Donc une refonte, on revoit le dictionnaire vraiment complètement, la maquette, etc. Et là, on fait une vague de suppression. Alors les suppressions répondent à plusieurs critères. Je mets minitélisé d'une part. Minitélisé, on comprend qu'aujourd'hui, bon, le minitel, il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est vraiment une réalité d'aujourd'hui. Et puis, il y a des mots qui sortent, pas parce qu'ils ne sont plus de la société, mais parce qu'il faut faire de la place. Voilà. Donc, ceux-ci ne répondent pas forcément à une logique de nombre d'occurrences du mot, etc.
Mais ça veut dire que quand on lit, par exemple, un roman du 19e siècle ou même un roman des années 80, ces mots-là vont disparaître alors même qu'ils étaient, entre guillemets, légaux, oui, selon le petit Robert ou le petit Larousse.
Oui, plus ça va, mécaniquement, plus on pourrait avoir de difficultés à lire un roman qui, lui, serait figé 1, 2, 3, 4 siècles plus tôt.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez?
Alors, pour moi, la solution, c'est très simple, c'est le numérique.
Parce que garder des dictionnaires plus vastes en ligne.
Oui, parce qu'un dictionnaire... Alors déjà, je précise qu'un mot qui disparaît du dictionnaire papier n'est pas mort. On a le droit de l'utiliser, on va le retrouver dans la littérature, on va le retrouver, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là où le numérique a beaucoup d'avantages, c'est que avoir 100, 200, 1000, 10 000 mots en plus, ça ne va pas manger beaucoup d'espace sur le disque. Donc on peut se permettre dans ce cas de ne supprimer aucun mot.
Alors à ce sujet, il y a deux outils qui ont été mis en place. Si vous achetez un petit Larousse, vous aurez une carte code, ça s'appelle carte d'activation du dictionnaire internet Larousse 2017. J'en ai une. Alors il faut dire que j'ai passé plusieurs heures pour essayer de la faire fonctionner, je n'y suis pas arrivé. Bon, alors heureusement, sur le petit Robert, il y a une clé. Alors là, c'est une clé USB qu'on met dans son ordinateur. Elle ne marche pas non plus. Peut-être parce qu'elle n'est valable que sur PC ou pas sur Apple, etc. Chacun de ses versions. En tout cas, pour l'instant, ça reste un peu difficile d'utiliser les dictionnaires sur le web, même si, Emmanuel Paquette, on vous le propose.
Oui, on vous le propose de plus en plus. De toute façon, aujourd'hui, ça a déjà été le cas avec les encyclopédies. Je pense que plus personne aujourd'hui n'achète d'encyclopédie. Wikipédia avait ouvert la voie. Aujourd'hui, quasiment toutes les encyclopédies sont numérisées, y compris en ligne, entièrement en ligne. Et donc, il est normal que les dictionnaires suivent la même évolution. Moi, j'avais juste une petite remarque. Il se trouve que, je ne sais pas si parmi vos clients, vous avez la RATP, mais il y a quelques jours, pendant le bac de français, ils ont quand même affiché un peu partout dans Paris, je cite, les épreuves du bac continuent, ES, Et là, sur Twitter, on a vu le site, donc le tweet de Becherel Tamer, qui est un correcteur d'orthographe assez vigilant, qui a dit, je cite aussi, on espère que vous aurez tous le bac à la SNCF et à la RATP. Donc, visiblement, vous avez encore du boulot devant vous.
Oui, il y a beaucoup de travail. Si le responsable de formation de la RATP nous écoute ce soir, je l'invite à me contacter.
Guillaume Thérien est fondateur du site orthodidacte.com et champion de France d'orthographe. Merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir proposé un nouveau nom pour cette émission qui s'appellera désormais, vous l'avez dit,
Puissance douce.
Puissance douce.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Alex Ross est le plus célèbre critique de musique classique aux États-Unis. Il tient la chronique du New Yorker et il est l'auteur aussi de plusieurs livres qui ont été des best-sellers sur la musique, ce qui n'est aujourd'hui pas si fréquent. On lui doit notamment The Rest is Noise, un superbe essai sur la musique classique, notamment américaine au XXe siècle. Et dans cet ouvrage, au titre shakespearien, il reprend en l'inversant la dernière phrase d'Hamlet, Alex Ross parle avec passion de Leonard Bernstein, de Copland, de Ives et tout ce qui a constitué la musique classique américaine. Depuis, il a publié Listen to This, une suite d'essais revigorants sur la musique pop, rock, jazz et classique, comme quoi le critique du New Yorker est éclectique et transgenre. J'ai interviewé récemment Alex Ross pour Soft Power, une interview diffusée ce soir en deux parties dans cette émission. Dans la première, nous avons parlé du futur du critique musical, notamment de musique classique. Vous êtes critique de musique classique et on dit souvent que la musique classique est morte et que le critique lui-même est mourant. Donc, d'une certaine manière, vous êtes doublement mort.
Yes, well, this is a joke.
Enfin, c'est une blague. Mais en même temps, c'est la perception qui existe et selon laquelle la musique classique et le journalisme appartiennent toutes deux au passé et qu'elles disparaissent lentement. C'est faux, mais à l'heure actuelle, certaines des institutions qui composent ces deux professions tendent à disparaître. Mais la forme artistique, la profession continuera à évoluer. Mais les institutions qui nous sont familières, elles, ont été remises en question. Et je crois que nous allons passer par une transformation dans les années à venir pour passer à quelque chose d'assez incroyable et méconnaissable par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle. Mais les formes d'art que nous connaissons continueront et le journalisme et surtout la critique d'art, à mon avis, va perdurer. Enfin, j'y crois.
On a aussi l'impression que le critique traditionnel, un peu élitiste, est moins valorisé que tout simplement d'entrer dans une conversation avec les lecteurs.
Perhaps so. I feel that
c'est peut-être le cas. Je n'ai pas l'impression de juger des événements musicaux, des livres, des films. C'est vrai que le risque est d'apparaître comme étant pédant, c'est-à-dire qui suis-je pour juger. Peut-être est nécessaire d'avoir une certaine compétence, une autorité. Mais je pense qu'il est bon d'avoir des gens que l'on apprécie, qui possèdent cette autorité et qui sont considérés comme étant des leaders. Tant qu'il existe une diversité et qu'il existe une communauté de critiques qui échangent, qui se répondent, qui réagissent à toute forme d'art, et si une de ces voix s'éteint, les autres dominent. Et moi, je pense que c'est beaucoup moins sain. Tant que la communauté est riche de nombreuses voix, je pense que c'est très bon. Et c'est vrai que nous n'avons pas des jugements préemptoires. Je crois qu'il s'agit plus de conversations et c'est notre approche à tous. Et moi, je me sens entre ces deux extrêmes. Peut-être que je suis plus proche de la forme traditionnelle, j'offre des directions de pensée, et je ne veux pas avoir un ton sentencieux lorsque j'écris. Je veux être très ouvert, être communicatif, et je ne veux pas donner l'impression de descendre de la montagne avec les tables de la loi, vous voyez. Ça ne m'attire pas du tout.
Quelle est votre légitimité, finalement? Et est-ce que ce n'est pas cette légitimité qui est aujourd'hui critiquée?
Well, I think, I mean, what legitimizes me is the writing itself.
Il me semble que ce qui me donne une légitimité, c'est mon écriture. Et tout critique qui peut se vanter d'avoir une longue carrière, c'est parce que son écriture a attiré les lecteurs. Ce n'est pas parce que je dis, ce n'est pas par le jugement que j'exprime. Je ne veux pas être péremptoire, comme je le disais, et je ne veux pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent comprendre. Il faut exprimer une voix qui touche les gens, entrer en conversation avec les formes artistiques, une voix en qui les gens ont confiance. Ils peuvent être totalement en désaccord avec cette voix, mais elle permet de leur donner une direction. Et souvent, les gens me disent, en lisant vos critiques, j'ai eu une idée de ce que je pouvais en penser. Alors, c'est peut-être pas la même chose que ce que j'ai écrit. Mais ils me connaissent suffisamment bien, ils connaissent suffisamment ma voix qu'ils reçoivent une perception très vivante de ce que j'ai pensé et du travail, même s'ils n'ont pas lu ce travail, s'ils n'ont pas vu ce travail. Et je crois que ma légitimité vient de là. Elle tient à ma constance, au style, à ma voix, à mon éloquence et à ce flair qui me caractérise peut-être, et peut-être à une contribution plus ample, c'est-à-dire que j'ouvre le champ des possibles, j'apporte de nouvelles personnalités à ce monde, j'attire l'attention du lecteur sur un artiste qu'il ne connaisse peut-être pas. Et puis j'offre une nouvelle information, j'offre de nouveaux éléments dans cette conversation. Ce n'est pas simplement de s'établir, de devenir une autorité en la matière, mais être une voix que l'on veut écouter.
À l'instant, la sixième symphonie de Beethoven, dite pastorale, dirigée en l'occurrence par Emmanuel Krivin, est gravée chez Naïve, maison de disques qui connaît en ce moment de graves difficultés. Emmanuel Krivin, lui, a été nommé cette semaine à la tête de l'Orchestre National de France, un des orchestres hébergés ici à la Maison de la Radio. Il est nommé pour 3 ans. À 69 ans, le chef français, né à Grenoble, a dirigé de nombreux orchestres étrangers, notamment aux États-Unis, plusieurs des orchestres dits Big Five, le BSO, le Boston Symphony Orchestra à Boston, le Cleveland Orchestra ou encore le New York Philharmonic. Chez nous, ce violoniste contrarié devenu chef d'orchestre, a métamorphosé l'Orchestre National de Lyon et fut aussi le chef invité permanent du Philharmonique de Radio France, autre orchestre ici à la Maison de la Radio. C'est dire qu'il connaît bien notre maison et qu'il rejoint donc pour ce retour aux origines. Ce soir dans Soft Power, nous parlons donc du futur de la musique classique. J'ai interviewé Alex Ross, principal critique de musique classique du New Yorker, où il tient la chronique de musique classique. Alex Ross vit à Los Angeles et à New York. Seconde et dernière partie de cet entretien qui est traduit par Paloma Goulemot, où après avoir parlé du métier de critique, Alex Ross revient sur la grande mutation du classique à l'âge numérique, par exemple avec Spotify, qui est une aubaine pour le mélomane, mais pose aussi toute une série de problèmes. Alex Ross.
Yeah, I mean, for me, with Spotify, there's several different problems.
À mon sens, Spotify... pose plusieurs problèmes. D'abord, il y a le coût de la musique à travers cette grille, par exemple, qui a été construite avec l'image de la musique pop. Alors, il y a le nom de l'artiste, le nom de la musique, et cela ne correspond absolument pas aux critères de la musique classique. Sur un même album, vous pouvez avoir 5 compositeurs, plusieurs ensembles, un chef d'orchestre, plusieurs solistes, et il est impossible d'entrer toute l'information dans leur grille de présentation. Et le logiciel ne vous permet vraiment pas de présenter plus de choses. Pour la musique classique, il faut plus d'informations, il faut placer l'œuvre dans son contexte, et cela réduit l'information à son strict minimum. Vraiment, je pense que c'est un vrai problème pour la musique classique. Et pourtant, beaucoup de gens écoutent de la musique classique sur ce site Spotify et même découvrent une musique nouvelle. Mais je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est positif pour la musique classique. Et puis, il y a un problème terrible, qui est la façon dont elle reverse les droits d'auteur aux artistes, et c'est quelque chose qui tire l'ensemble vers le bas. Alors, ils reprennent l'ensemble de ces immenses archives des maisons de disques, et puis ils en tirent un revenu énorme, et il n'y a pas d'investissement sur le travail des artistes actuels. Ils travaillent sur les catalogues anciens, en fait, de ces maisons d'édition, de maisons de disques. Il n'y a plus d'investissement, plus d'avance faite aux groupes de rock. On ne fait que reprendre cette musique qui existe. Et puis, on reprend toujours ces artistes qui sont de gros vendeurs. Et ces gens qui sont déjà très riches vont devenir un peu plus riches grâce à Spotify. Et c'est quelque chose qui me dérange. Et c'est l'un des aspects, celui selon lequel le gagnant remporte toutes les mises, qui est quelque chose qui me dérange, qui est un modèle économique qui, à mon sens, ne fait que mettre en exergue les profondes inégalités qui existent dans notre société. Et je crois que nous devrions évoluer sur quelque chose de plus constructif, mieux récompenser les artistes, comme par exemple un autre site qui s'appelle Bandcamp, qui est un autre modèle qui présente la musique et qui, à mon sens, est beaucoup plus juste avec les artistes.
Quelle est l'opposition entre un critique et un algorithme? Et est-ce que vous vous définiriez au fond comme un anti-algorithme?
Yeah, I would say that I resist this tendency to average out.
J'essaie de ne pas tomber dans cette tendance de nivellement, d'avoir votre goût prédit par un algorithme, c'est-à-dire qu'il va vous dire ce que vous allez aimer en fonction de ce que vous avez aimé précédemment. D'abord, dans le monde de la musique classique, il n'existe pas un algorithme qui peut vous offrir cette possibilité. Ce n'est pas aussi présent que dans le monde de la pop ou dans d'autres médias. Je crois que si je devais définir mon rôle en tant que critique, je dirais que je pointe vers la direction la moins claire, la moins évidente. Alors, je montre aux gens des œuvres qu'ils pensent rejeter et j'essaie de revenir sur leurs préjugés. Et je crois qu'un algorithme ne peut pas vous offrir ça, puisque l'algorithme, c'est si vous aimez ceci, vous allez aimer cela. Je crois que pour moi, le goût est beaucoup plus compliqué que cela. J'ai vu à quel point j'ai pu changer d'avis sur un compositeur, un artiste, quelqu'un qui à un moment était sans intérêt pour moi, que j'avais rejeté et qui devient essentiel à un moment. Et je ne crois pas qu'un algorithme peut réaliser cette transformation du goût en moi. Elle dépend de certains moments de ma vie. Et alors, à ce moment-là, quelque chose va être plus présent pour moi, va me toucher. Je crois que les critiques ont cet effet de réveil. C'est-à-dire qu'ils peuvent aider les gens, alors toujours en douceur. On peut les amener à essayer cela. Et puis, je crois qu'il faut induire un peu de patience et de passion, et c'est ce que fait le critique.
Pour finir, une question sur l'évolution au fond de la musique classique. Lorsqu'on suit l'histoire des États-Unis, on s'aperçoit que Toscanini, par exemple, a multiplié les concerts en public dans les parcs et puis à la radio aussi, notamment sur NBC. Plus récemment, Bernstein a été très actif aussi dans les concerts publics, gratuits dans les parcs. Et on a aujourd'hui, on assiste à San Francisco à un travail très développé de Michael Tilson Thomas, le chef d'orchestre de la San Francisco Symphony, d'être présent sur Twitter massivement, de faire des concerts sur YouTube, de projeter des images pendant que le concert a lieu dans la grande salle qu'il anime aussi à Miami. Comment est-ce que vous voyez ces évolutions ?
Je pense qu'il est essentiel d'avoir ces artistes qui possèdent un véritable talent pour s'adresser à un public beaucoup plus large que celui de la musique classique. La musique classique, en tout cas son monde, souvent se considère comme étant sérieux, réservé, un médium au-dessus de la masse, à part, et il faut aller chercher la musique et la musique n'ira pas vers vous. Et à mon sens, pendant des décennies et des siècles, c'est vrai que cette musique a été portée par ces personnalités clés et phares. Et il fallait vivre de l'imagination, de la maestria, de l'aura de ces compositeurs, de ces artistes et même chanteurs qui avaient un charisme totalement à part. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il nous faut ces nouveaux artistes qui savent s'exprimer dans ce nouveau monde, ces médias sociaux tels que Twitter, Facebook, qui permettent en fait à beaucoup de gens de découvrir de nouvelles cultures, des musiciens classiques, des compositeurs classiques. Et je crois qu'ils doivent être présents, ces compositeurs et musiciens, sur ces médias. Mais seulement s'ils sont bons à l'exercice et s'ils aiment ça. On ne va pas imposer à certaines personnes de se lancer à être présents sur les médias sociaux s'ils ne sont pas bons et s'ils n'aiment pas ça parce que ça n'a aucun intérêt, mais si des gens comme des chefs d'orchestre tels que Michael Tilson Thomas ou Yannick Nézet-Séguin ont ce goût, ce talent pour cela, ben je crois que ce sera très positif et cela aura un effet constructif parce que souvent, les gens ne sont pas attirés par le son en soi. D'abord, c'est la personnalité de l'artiste qui va les attirer, puis ils passent au son et puis de fil en aiguille.
Leonard Bernstein serait aujourd'hui sur les réseaux sociaux?
Oh, yeah, absolutely, my God.
Oh, tout à fait, bien sûr. Les gens lui demanderaient de se taire, d'arrêter de tweeter tout le temps. Ah, je pense qu'il aurait adoré cette forme de média pour pouvoir irradier, présenter sa forte et magnifique personnalité. Il aurait lancé des scandales, des controverses. Ah, je pense qu'il aurait été très fort là-dedans.
Voilà, Alex Ross qui rendait hommage à Leonard Bernstein, qui aurait adoré être sur Twitter. Et on se quitte justement avec Leonard Bernstein. C'est l'adagio pour cordes de Samuel Barber, dans une version interprétée par Bernstein. C'est ce morceau qui a été choisi mercredi soir pour l'hommage aux victimes de l'attentat du Pulse, ce club gay d'Orlando où 50 000 personnes se sont retrouvées dans Central Park pour un concert gratuit du New York Philharmonic. Morceau célèbre et douloureux que cet adagio pour cordes de Barber, signé d'ailleurs par un compositeur gay, comme l'étaient aussi Bernstein et Copland. Copland, comme quoi les Américains savent rendre hommage à leurs morts avec Pride. Dimanche prochain, nous parlerons des réfugiés et de leur culture dans Soft Power avec Pascal Brice, le président de l'OFPRA. Vous pouvez vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparé ce soir par Mathilde Wagman et David Lavaux, à la régie Jacques Hubert, à la réalisation Olivier Guérin. Demain matin, dans les matins de France Culture, Guillaume Erner reçoit Thomas Clay, le professeur de droit qui est aussi le président de la haute autorité des primaires du PS. Sujet chaud s'il en est, ce week-end. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.